on sait pas trop ce qu'on s'en va. Magnifique, c'est même pas le mot pour décrire.
Le retour de Boulevard 102.
Je vais même pas expliquer ma réaction. J'étais la fille la plus heureuse sur Terre.
Avec Denis, Véro et Audrey. Gravel.
Boulevard 102.1.
En plein cœur de l'heure de pointe, en 16h18, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Max, état des routes.
Ouais, on va y aller du nord au sud. Fait qu'on part sur Henri IV entre l'avenue Industrielle et Sainte-Geneviève en direction nord. Il y a un ralentissement quand même considérable. Ensuite, la capitale en direction ouest entre Beau-Royal et Laurentienne, pas mal au ralenti aussi. Capitale direction est, un ralentissement qui va commencer un peu passer le boulevard Neuvial qui va se poursuivre jusqu'aux environs du boulevard Pierre-Bertrand. Sur Robert Bourassa, direction nord, entre Charest et la capitale. Par bout, il y a des ralentissements. J'ai vu pire, mais quand même peut-être à considérer. Secteur des ponts, autant Henri IV que Duplessis, direction sud. Je vous dirais que présentement, on commence à ralentir entre le chemin Sainte-Foy et le boulevard du versant nord. Et pour finir, sur la rive sud, la 20 direction ouest entre route du président Kennedy et Taniata. C'est au rouge.
On est en mode sondage depuis quelques jours déjà du côté du Journal de Québec et on a un nouveau volet de sondage qui a été présenté dans les dernières minutes concernant les intentions de vote actuellement au Québec.
Exactement, du côté provincial. Puis on le sait que quand les aiguilles bougeaient, c'était pas mal toujours en faveur du PQ. La CAQ avait réussi à reprendre un petit peu de plume dans les derniers temps. Le Parti libéral, c'est comme si le Parti libéral n'existait pratiquement plus depuis plusieurs mois. Et la différence se fait à ce niveau-là. Le parti qui, avec le dernier sondage, a gagné le plus de points, puis on imagine que c'est la fibre patriotique canadienne qui a ressorti, c'est le Parti libéral qui a fait un gain de 5 points. Si on compare avec le dernier sondage qui avait été fait, je pense que c'était au mois de novembre ou décembre.
Ouais, c'est peut-être des gens mêlés qui pensaient voter Trudeau, par exemple.
Là, Denis, quoi? J'y ai pensé.
Ben, ça se peut.
J'y ai vraiment pensé, alors que le Parti québécois est à 30 % des intentions de vote, toujours en tête, mais en perte d'un pour cent. La CAQ, perte de 3 %, c'est pour dire à quel point la réaction de François Legault d'essayer de remettre son habit de bon père de famille ne colle pas, mais pas du tout. La solidarité canadienne paraît aussi quand on arrive avec le vote sur la souveraineté. Sans aucune surprise, les intentions sont les plus faibles depuis 5 ans, alors que le niveau d'appui à la souveraineté du Québec se situe actuellement à 29 %, mais ça, on l'a entendu partout. Il y a une espèce de vulnérabilité à ce moment-ci en comparaison avec ce qui se passe avec les États-Unis, puis il y en a plusieurs qui sont comme « Hey, si on était tout seul dans notre coin, on serait encore plus petit dans nos shorts, là. » Fait que ça s'impacte directement dans les réponses au sondage léger qui a été commandé par TVA.
Est-elle actuellement solidaire avec le reste du Canada? Analyste politique, oui. Anthony Miakarimi, bonjour!
C'est drôle parce que ces temps-ci, je porte un manteau rouge avec une tuque de la baie du son.
Voilà.
Je trouvais qu'il manquait juste un café de Tim Hortons.
J'avoue, oui!
Ça y est, là.
Fait que le grand rêve où tout le monde devient pro-fédéraliste de Pierre-Éliott Trudeau est enfin réalisé l'espace de quelques jours.
C'est peut-être temporaire, mais actuellement, c'est quand même tangible.
Oui, ces temps-ci, c'est pas une super époque pour la souveraineté. Sauf que ça finit toujours par revenir, les amis.
Ah, je sais, c'est comme les films de zombies.
Jamais ça ne meurt.
Ah, ben, coudonc, quand ça va venir, ça va être l'affaire de mes enfants. Moi, je vais être mort.
Bon.
Non, Antonine, plus sérieusement, es-tu surprise de voir les fluctuations au niveau des sondages?
Quand même, de voir que c'est le Parti libéral du Québec qui profite le plus. Il faut dire qu'il y a une course à la chefferie qui vient d'être déclenchée.
Oui.
Mais c'est pas comme si on en entendait beaucoup parler, là, avec celle qui est à Ottawa.
T'as
avec
tellement
tout ce
raison.
Il n'y a pas d'espace pour ça, là.
C'est Yannick Marceau a reçu aujourd'hui Charles Milliard, qui est un des candidats à la course à la chefferie. Puis, tu sais, il a un super beau pedigree, un super beau CV, mais on entend zéro parler de cette course-là. En fait, les seules fois qu'on en entend parler, c'est pour entendre parler de Denis Coderre, qui semble-t-il pas encore legit dans son application.
Ouais, on n'a pas de nouvelles, d'ailleurs. Demandez-moi-en pas. J'en ai pas.
J'en veux pas.
Sauf que ce matin, il y avait Marc Tanguay qui était à l'émission de Reg, à l'émission du matin, puis il expliquait que ça les inquiète pas trop quand même de pas avoir autant de lumière qu'ils voudraient.
Parce qu'il y a encore du temps, par
contre. Ils ont encore du temps. Fait que c'est jusqu'en juin, puis les débats, ça va être plus au printemps. Fait qu'ils disent, regarde, en attendant, c'est la course au PLC, on comprend ça prend de la place, c'est la crise avec Trump. Moi, j'aurais pas trop d'espoir que ce soit réglé d'ici le mois d'avril, mettons, mais c'est pas grave. Au moins, il y aura peut-être un peu plus d'espace. Mm-hmm. Fait qu'eux pensent qu'ils vont avoir quand même une course qui va pouvoir faire jaser. Là.
La baisse de la CAQ dans le contexte de Trump, est-ce que... Ben, d'après toi, qu'est-ce que les Québécois auraient voulu d'autre comme réaction de premier ministre, mettons?
Oui, bien là, je veux pas briser le party de genre, c'est extraordinaire, mais c'est sûr que des mouvements de 3, 2, 1 point...
C'est souvent dans la marge d'erreur.
On s'entend, là. Mm-hmm. Fait que moi, si j'étais à la
CAQ... C'est ça qu'on dit quand on a nos sondages, nous
ben,
autres, oui.
Oui, exactement. Quand t'as un mauvais sondage, tu le commandes pas, puis tu dis que ça marche d'erreur.
Ça marche d'erreur,
puis quand
oui.
t'as un bon sondage, là, t'en parles, puis tu l'analyses de long en large.
Voilà.
Fait que c'est la même chose en politique. Si j'étais à la CAQ présentement, puis que je regardais ces sondages-là, présentement, je serais pas en train de paniquer comme tel. Par contre, il y a quand même un petit drapeau jaune, parce que c'est vrai que dans un temps de crise comme celui-là, d'habitude, ça avantage, du moins temporairement, les gouvernements.
Mais on l'a vu, ce qui se passe avec Doug Ford. Il s'est lancé en élection, puis ce matin, il y avait le dernier sondage qui faisait les prévisions de sièges. Je pense qu'il est à 99 sièges.
Oui, lui, là,
il est sur une parti pour la gloire. Là. Oui, oui.
C'est pas pour rien qu'il a déclenché son il élection savait, hein. 15 mois d'avance. Mmh. Hein. Je pense qu'il sentait que le timing ne serait jamais aussi favorable. Est-ce que tu as les chiffres pour Québec solidaire?
Attends,
c'est une baisse
oui.
de 3 points sur ta 10.
Ça n'a aucun bon sens. Cette chute se poursuit et ils sont dans un marasme incapable de s'en sortir.
Va se passer quoi?
Ben écoute, je sais pas, sauf que là, Gabriel Nadeau-Dubois est pas là ces temps-ci.
C'est son congé de paternité.
Il est en congé de paternité. C'est Ruba Gazal là, qui prend vraiment l'espace. Est-ce que son approche pourrait faire en sorte d'aller chercher quelques points? On verra.
On les a vus vivoter. T'sais, ils se retrouvent souvent dans le même pourcentage d'intention de vote que le Parti conservateur du Québec. C'est pas...
Exactement. Je pense qu'Éric Duhaime, dans les projections en ce moment, il y a autant de sièges, sinon plus, que Québec solidaire. Ouais. Fait qu'il y a des petites questions à se poser.
Antonine, permets-moi un croche vers la politique municipale puis l'actualité qu'on a jasée dans les dernières heures. Puis je veux essayer de comprendre pourquoi les politiciens s'excusent pas. Il me semble que c'est facile s'excuser. Il me semble que c'est pas si difficile. Puis il me semble que même au niveau stratégique, il y a des points politiques à gagner quand rapidement tu reconnais une erreur puis tu t'excuses.
Je suis 100% d'accord avec toi. Je trouve que ça coûte pas cher de dire « Excusez-moi, je reconnais que c'était une erreur de dire ce que j'ai dit. » Donc, hier, au conseil municipal, là, il y a évidemment Bruno Marchand qui a reçu les questions d'une citoyenne qui faisait des gestes. On est à la radio, c'est un peu difficile de vous les montrer, mais des gestes qui pourraient un peu avoir l'air d'un salut nazi.
Mais qu'elle a mis en contexte en disant « Je vais imiter le conseiller Pierre-Luc Lachance ben qui, quand oui. il name-droppait des affaires, il avait la patte dans l'air aussi. »
Mais
là.
Je l'ai regardé la vidéo, puis ça, c'est clairement pas ça qu'elle est en train de faire, là, la madame. Là, ça
c'est madame
pas.
Qui est fou la gauche, en plus.
Par contre, je comprends que, comme élue, son langage corporel puis son propos, ça peut te challenger, ça peut venir te chercher, c'est correct.
Mais tu peux revenir le lendemain matin. Là.
Ben, un, tu peux revenir, puis aussi, je sais que c'est difficile des fois, mais il faut garder son calme. Les citoyens ont des questions qui sont légitimes, mm-hmm. et ce n'est jamais l'élu qui gagne en pognant un air face à un citoyen.
C'est-tu l'orgueil qui empêche les politiciens de s'excuser parce que j'ai l'impression que les conseillers politiques sont du même avis que nous autres? Ils doivent dire, ben là... T'as juste excuse à t'excuser, puis on va passer toute la gang à autre chose.
Mais surtout pour un sujet comme celui-là. Parce que s'excuser de certaines politiques, c'est comme d'avouer que t'avais pas raison, que t'étais pas à bonne place. Il peut avoir un coup politique à ça, mais s'excuser dans le contexte qu'on voit là, je comprends pas trop c'est quoi le problème. On voit que Bruno Marchand défend bec et ongle, hein, souvent aussi son conseiller municipal, Pierre-Luc Lachance. C'est pas la première fois qu'il y a certaines altercations.
Mm-hmm. Il semble très sanguin.
Il semble assez sanguin. Par contre, même s'il ne s'est pas excusé, il a reconnu, il a dit « Je crois la dame quand elle dit que c'était pas un salut nazi. » Donc, c'est déjà ça. Là. Enfin, tout le monde est d'accord pour dire que c'était pas ça, parce que ça serait vraiment dommage pour la dame aussi de se retrouver prise avec
cette étiquette
qui colle. Là. C'est quand même un peu grave. Là. En tout cas, moi, j'aimerais pas savoir cette étiquette-là.
Pas super, hein? Puis moi, je comprends, tu sais, les politiciens qui sont sanguins. Nous autres, moi puis Véro, on vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on parle souvent de nous autres comme étant des gens sanguins.
Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça, c'est consanguin. OK. Mon Dieu Seigneur, je suis vraiment ailleurs. Antonine! le tsar du fentanyl!
Bon. Okay.
Quelle bonne idée!
Bon. Hein? Alors, cette semaine, ce qui nous a valu un sursis de un mois, pour les tarifs que Donald Trump veut nous imposer, c'est que Justin Trudeau a accepté de nommer un tsar du fentanyl.
Juste le terme, en partant, on s'est dit, c'est Trump qui joue à un pas game.
Ouais. Là, pour mettre en contexte, oui. Le terme tsar aux États-Unis est utilisé quand on nomme quelqu'un de la société civile qui n'est pas un élu dans un rôle en particulier.
C'est commun ou c'est particulier à l'entourage de Trump?
C'est pas seulement Trump.
OK.
Par contre, on le sait qu'il trippe sur Vladimir Poutine, puis qu'il n'y a pas ça. Là, la manière dont ça fonctionne en Russie, là, cette petite autocratie-là, donc on peut faire le lien assez facilement. Mais là, après avoir ri de ça, parce que hier, je me disais, c'est du niaisage. Hein, parce que c'est la priorité de la minute là, pour Donald Trump. Puis si vous regardez un peu les enjeux de fentanyl en Amérique du Nord, là, le Canada...
C'est marginal.
C'est hyper marginal.
On a pris le temps de déplier les chiffres ensemble que Félix Séguin a sorti pour JE. Puis je veux dire, il n'y a aucune commune mesure entre ce qui se passe au Mexique et ce qui se passe au Canada.
Le Canada n'est même pas sur le radar de l'agence gouvernementale qui combat les drogues aux États-Unis. Là. Ouais. Ça ne fait pas partie des paramètres. Fait que sur le coup, j'ai trouvé que c'était vraiment du niaisage. Puis que dans le fond, ce que fait Donald Trump, c'est jouer avec nous. Puis de montrer, je vais aller chercher des gains, je vais menacer. OK, là, le Mexique a fait un spectacle militaire sur le bord de la frontière. OK, je vous donne un petit sourcil. Puis là, il joue aux marionnettes, puis il rit dans son bureau avec Elon Musk. Mais là, après, je me suis dit, sors du fentanyl. Ça doit être bien payé, ça.
Sûrement,
j'imagine.
Donc, j'aimerais appliquer pour l'emploi. J'ai plusieurs arguments là, que je vous ai
T'as
sorti
ton CV?
Oui, absolument.
T'en as consommé, non?
Non, je n'ai jamais... Bon, ça, déjà, c'est un très bon point. Merci beaucoup. Je n'ai jamais consommé de fentanyl. Donc, je pense que ça me qualifie.
Mais on peut le voir des deux côtés, quand même. On pourrait penser...
Il aurait fallu que je l'aie essayé.
Ben peut-être.
C'est hautement addictif. Hein? Donc, je pense que quand tu l'essayes...
Tu peux pas te rendre à tort.
C'est pas comme une petite soirée de party le 31 décembre, là, que tu fais un petit spécial.
OK.
Plus dur de faire de l'analyse politique.
Entre autres. Ça sera pas avec moi, le trip fentanyl analyse politique. Donc, moi, je pense que c'est un bon argument. Je vais présenter ça à l'employeur. Le féminin de tsar, c'est tsarine.
Tsarine.
Bon, ça rime avec Antonine.
J'avoue.
C'est bien.
Bon, Antonine, c'est pas mon meilleur argument. J'en ai d'autres. J'ai une maîtrise en criminologie.
Oh.
Et j'ai 20 ans d'expérience dans la lutte contre les cartels. C'est complètement faux, mais c'est pas grave parce que c'est ma vérité. Puis de nos jours,
J'avais 60 questions à te poser. Ouais. Je suis vraiment
déçue. Les gens à la maison avaient pu voir la face. Les trois faces qui me regardaient. Ouais. La maîtrise, vous étiez comme « Ah ouais? »
Mais ça,
là, les 20 ans d'expérience, j'ai senti que...
Ouais, j'étais à ça de te donner un job. Là.
Bon, ben c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Parce
c'est
que de nos jours, c'est ça, c'est l'effet alternatif que j'ai à proposer. Puis vu que c'est un poste qui est exigé par Donald Trump, je pense que ça va être bien correct. Et de toute façon, si on peut embaucher un anti-vax comme ministre de la Santé, puis l'ancienne patronne de la WWE pour être ministre de l'Éducation, je vois vraiment pas pourquoi je pourrais pas être embauchée pour être sarine.
L'autre côté, c'est que t'es quand même une certaine figure publique. On peut te voir à la télévision, puis il adore les gens qu'on voit à la télé, fait que ça joue en ta faveur.
Exactement. Moi, je pense qu'il va dire « It's amazing. It's a great nomination.
She's a great person.
Absolutely.
Par contre,
tu vas avoir un rival, parce que là, il y a quelqu'un qui va changer de job bientôt, le premier ministre sortant, Justin Trudeau. Lui, il a vu que tu sors, puis il s'est dit « Mon Dieu, c'est le temps de me déguiser en star. »
C'est sûr qu'il y a
un star du 19e siècle.
Ça fait longtemps que tu t'inquiètes pour les débouchés Justin Trudeau, fait que ça pourrait être ça, mais moi, je pense que je serais meilleure pour la job. Mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est un vrai enjeu, le fentanyl, en passant. Je dis que c'est du niaisage, mais la crise des opioïdes, c'est un vrai enjeu.
Oui.
Si particulièrement dans l'Ouest. Là.
Absolument. Mais si on veut s'attaquer à la problématique, ben, on aurait pu, par exemple, s'attaquer à la compagnie qui a inventé l'oxycodone, qui a poussé ça dans tous les bureaux de médecins.
Purdue Pharma.
Il y a des super bons films là-dessus, notamment Crime of the Century, qui est le documentaire, et le film Painkiller, que je vous recommande.
D'après toi, est-ce que Trump a gagné son pari, c'est-à-dire qu'il a eu ce qu'il voulait pour le moment et il n'a pas eu à faire une guerre de tarifs où le jupon aurait peut-être pu commencer à dépasser sur le fait que, ouais, finalement, ils ont peut-être besoin des ressources du Canada, puis finalement, il y a peut-être des impacts négatifs aux États-Unis aussi. Là, il peut continuer à dire ses vérités, comme tu nous l'illustrais très bien tantôt, puis les suiveux vont dire, ben oui, il avait raison, regardez, là, il a fait plier le Mexique puis le Canada avant même de commencer sa guerre.
Moi, je veux juste nous mettre en garde, rien n'est réglé, là. Au contraire, là,
ça ne fait que commencer. En fait, le 1er, 2, 3 mars, on va être encore dans la même situation qu'on était là.
On va peut-être dans cette situation-là pendant 4 ans. Puis là, je sais que je vais avoir l'air d'exagérer, mais je je n'exclus pas qu'on soit dans cette situation-là plus que 4 ans, parce que je n'exclus pas que Donald Trump essaye de rester au pouvoir. Bon,
ça, on commence à l'entendre de plus en plus.
Il est un peu vieux, mais je ne l'exclus pas.
C'était juste un facteur pour Biden, ça. Trop vieux pour faire de la présidence.
C'est ça compte pas.
Trump, c'est correct. Ouais.
C'est sa vérité. Son âge, c'est sa vérité. Donc, non, c'est, en fait, la tactique de Trump, d'ailleurs, il l'a décrit très bien dans son livre Art of the Deal, c'est vraiment de commencer avec des coups d'éclat, déstabiliser l'adversaire, te tenir constamment au bord du précipice pour aller chercher des gains.
Pas mal ça, ce qu'il a fait.
Ben, c'est ce qu'il est en train de faire. Puis moi, c'est sûr que, tu sais, il n'y a personne qui a de bonne réponse. Là. On est devant un adversaire qui est complètement, même à la limite de l'irrationnel. Mais c'est sûr que moi, quand mon enfant me fait une crise à l'épicerie pour avoir des bonbons, il n'y en aura pas de bonbons. Si tu vas te calmer,
tu peux le ramasser sur ton bras puis sortir.
Tu vas me mettre ça dans des mots, puis on va faire une vraie négociation. Dans le cadre de la négociation de l'accord de libre-échange, on verra. Dans la vraie vie, là, Donald Trump, s'il avait appelé Justin Trudeau puis il avait dit qu'il faut nommer un tsar du fentanyl, il n'avait pas besoin de nous menacer avec 25 % de tarifs.
C'est ça.
Parce que la relation qu'on a avec les États-Unis fait en sorte que souvent, on va leur donner de toute façon ce qu'ils veulent, mais ça devrait se passer dans le cadre d'une négociation. Il va falloir arrêter d'y donner tout ce qu'il veut, acheter des drones chinois en panique qui ne fonctionnent même pas, puis des niaiseries comme ça.
Puis là, tu sais, il amène quand même assez large. On a vu ce qui s'est passé hier quand il s'est dit « Hey, on va vider la bande de Gaza, puis on va en faire un Club Med, là. » Est-ce que, comme moi, tu commences à craindre qu'à un moment donné, il va piler ses pieds de quelqu'un qui ne se laissera pas faire?
Mais il pile déjà sur des pieds. Tantôt, on parlait à l'interne aux États-Unis, ça brasse, là. Il y a beaucoup de gens, puis dans son entourage aussi, qui ne souhaitent pas qu'on s'en aille vers une guerre commerciale comme on connaît, comme ils nous pendonnaient en ce moment, étant donné que l'économie des États-Unis va en souffrir autant que l'économie du Mexique et celle du Canada. Pour la question de Gaza, bien, pourquoi la situation est aussi complexe à Gaza puis que ça ne se règle pas justement par des claquements de doigts comme M. Trump laisse entendre? C'est notamment parce qu'il y a des alliés aussi. Les Palestiniens, on est dans le monde arabe. Les Saoudiens, par exemple, il y a d'autres pays qui vont soutenir Gaza. Il y a l'Iran, il y a toutes sortes de relations comme celle-là.
Oui, mais sa solution ne fonctionne pas, Antonine. Tu as juste à les prendre puis les mettre ailleurs puis passer la grappe.
C'est ça, mais
Des réfugiés pas dans ma cour, mais ailleurs, ça fonctionne.
Ça fonctionne. Mais les Saoudiens vont faire la même affaire avec leur argent qu'ils investissent aux États-Unis. Puis ça, c'est, je pense que les amis de Trump et son entourage vont moins aimer ça. Mais tu sais, c'est fou pareil. À toutes les 5 minutes, il y a une nouvelle comme celle-là depuis que Trump est de
retour. Dès qu'il y a un point de presse à la Maison-Blanche, j'ai chaud. Je me dis, il faut que je refasse mon bulletin de nouvelles.
Les gens sont... Il y a beaucoup d'anxiété. Mais ce qui se passe à Gaza, tu sais, c'est comme un génocide qu'on transforme en projet immobilier, là. C'est ça qui se passe cette semaine.
Tu sais, il y a plein de choses qui garochent. Puis évidemment, tu sais, quand ça nous touche, quand ça touche le Canada, ça fait la manchette. Mais parmi les grossièretés qu'il a mentionnées depuis son arrivée à la Maison-Blanche, tu nous en avais glissé un mot à micro fermé la semaine passée. J'aimerais ça t'entendre sur le droit de sol.
Ouais, dans le fond, parmi les piles de décrets qu'il a signé
avec son, gros crayon feu,
avec son gros crayola noir, il y avait l'idée qu'à partir de maintenant, c'est pas parce que tu es né aux États-Unis que tu as la citoyenneté. Il faut que tes parents soient nés aux États-Unis. Donc, dans les pays qui se tiennent là, dans la vie, quand tu es né à quelque part, tu as la citoyenneté, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le droit du sol. Le contraire du droit du sol, ben, c'est le droit du sang. Donc, c'est selon tes parents. Ça, présentement, c'est challengé par les tribunaux. Je ne suis pas certaine qu'il va réussir à aller de l'avant avec ça parce que ça va quand même très loin. À partir de comment tu vas aller vérifier, dans le fond, la filiation des gens pour décider s'ils sont citoyens. C'est des principes humains de base là, qui sont bafoués.
16h36, bien des choses à jaser dans l'actualité. On va changer de palier. Ça semble être une bonne idée, ça, tabarnouche. Quand le système de santé va mal, là, les primes de performance, on peut laisser faire. Là. Puis les bonus puis ces affaires-là, ben là, tu vas voir ta promotion quand ça va fonctionner. Là.
Mais ça fait 4 minutes et quart qu'ils sont arrivés.
Santé Québec?
Oui!
Je sais.
Bon, fait que là, c'est opinion impopulaire ici que je vais défendre. Là, puis je sais, je vais me faire tirer des tomates, puis je l'assume.
Toi, tu garderais les primes?
Bien, peut-être pas pour toujours, mais sauf qu'ils viennent d'arriver.
Moi, je prendrais Santé Québec, je les placerais ailleurs, puis je passerais à gratte par-dessus.
Bon, là, encore une fois, on va prendre une grande respiration. Il y a une réforme en train de se faire, puis on est tous cyniques, puis on y croit pas, puis on est tanné, puis ça va mal, puis les urgences débordent, puis on n'a pas de médecin, on est à bout, OK? Sauf qu'il y a une réforme qu'on essaie de mettre en place. Est-ce qu'on peut laisser la chance? Un an? Juste un an?
Toi, tu demandes un an.
Ça peut-tu changer en un an?
Il faut qu'il y ait des signes encourageants. ça ne changera pas du tout au tout. Là. Je veux dire, s'il y avait une solution magique, il y a quelqu'un qui l'aurait proposé depuis tout ce temps-là. Puis là, je sais que les primes, ça, c'est jamais populaire. Là. C'est comme la carte gratuite sur le bingo. Si j'étais dans l'opposition, je serais en train de faire la même affaire que les oppositions présentement. Là. C'est sûr et certain. Sauf que ça fait partie de la rémunération globale qui est négociée quand tu nommes des top guns.
En allant les chercher au privé en disant, viens au public, mais on va s'assurer que ton salaire soit compétitif.
Puis là, les oppositions, puis je voyais des lignes de presse aujourd'hui, c'était « ça va mal dans le système de santé, je vois pas pourquoi vous auriez des primes de performance parce que ça performe pas ». Là, c'est sûr que si l'indicateur de performance, c'est que ça aille bien, ben,
t'auras jamais de prime en santé.
Ben non, ben, c'est ça. Fait qu'il faut être un peu plus granulaire là, dans nos indicateurs de performance. D'ailleurs, moi, dans mon rôle de tsar du fentanyl, il n'y a aucun indicateur de performance. Fait que
non.
C'est parfait.
Fait que tu touches tout le temps tes primes.
Ben, tu peux pas te planter dans ce temps-là. Sauf que pour Santé Québec, ça prend des indicateurs de performance, mais ça peut pas être que ça va bien. Ça va pas bien depuis tellement longtemps, mais on veut voir des signaux encourageants. On veut qu'il y ait plus de chirurgie qui se fasse dans les hôpitaux. En ce moment, il y a des médecins qui nous disent on aimerait ça faire plus de chirurgie. On n'y arrive pas parce que le budget n'est pas là, parce qu'on n'a pas d'infirmière, parce qu'on n'a pas de salle, parce que c'est mal organisé. C'est ça le rôle de Santé Québec, c'est d'organiser les choses. Donc, il faut quand même leur laisser un peu de temps. Fait que moi, je suggère qu'on arrête de tirer sur l'ambulance, pas pour toujours, là, mais c'est comme 6 mois, 1 an.
Un genre de probation.
Oui. Laissez la chance au coureur.
Antonine Latsarine, merci beaucoup.
Merci, j'ai très hâte. Je vais quand même faire mes chroniques quand je serai de sort.
Tant mieux, tant mieux. Antonine Iaccarini, analyste politique, 16h39. Vous êtes à Boulevard, c'est Gravel dans le retour. Gravel.